Alors, je vous invite aujourd'hui à trouver un passage dans Romains chapitre 5. C'est un passage qui va faire un peu la continuité avec ce que le thème abordé mercredi soir dans la réunion de prière. Romains chapitre 5, versets 1 à 11, et puis on va voir qu'il y a aussi un lien avec le thème qu'on a pu aborder ensemble le week-end dernier concernant notre sanctification en vue de notre attente du retour de Jésus. Donc Romains chapitre 5, les versets 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors, Paul, dans ce passage, parle du fait de vivre la victoire en Jésus-Christ. Alors, si je parle de vivre la victoire, je ne sais pas quelle idée, quelle image cette expression produit en vous, quelle idée vous vous faites de ce que ça veut dire, de vivre la victoire en Jésus-Christ. Est-ce que c'est donc une vie où si on est victorieux sur le monde, on règne sur le monde ? Est-ce que c'est une vie où, en tant que chrétien, grâce à Jésus, nous atteignons les plus hautes sphères de la société? Alors, ces choses peuvent arriver, mais je dirais plutôt dans le cadre d'un plan personnel de Dieu pour notre vie, pour ma vie personnelle, que dans la nature même de ce que ça veut dire être chrétien. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément promis à tout chrétien. Quand on regarde même notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas gouverné la terre entière. Pas encore, en tout cas. Lorsqu'il est venu très humblement, il a vécu de manière simple, et la fin de sa vie n'a pas non plus été glorieuse du point de vue du monde. Comme dit Paul, c'est pas une sagesse éclatante pour le monde que nous pouvons annoncer, quelque chose qui serait un message de comment bien réussir du point de vue du monde, mais c'est une sagesse dans le royaume de Dieu. Et en Jean 18, verset 36, lorsque justement Jésus est arrivé vers la fin de sa vie, lorsqu'il était devant Ponce Pilate, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit « Je suis venu pour dominer le monde ». Lorsque Pilate lui dit « Alors tu es véritablement un roi ?» Il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc, c'est important de se rappeler cela lorsque nous nous posons la question, bah, qu'est-ce que ça veut dire avoir, connaître la victoire en Jésus-Christ? Est-ce que vivre la victoire, c'est avoir une vie sans difficulté? Ou nous sommes toujours victorieux parce que finalement, bah, tous les problèmes de notre vie ont disparu? 1 Pierre chapitre 2, versets 20 et 21, Pierre parle au contraire de la possibilité en tant que chrétien de souffrir. Quand on parle de souffrance, c'est que tous les problèmes n'ont pas disparu. Pierre dit aux chrétiens, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Il dit, si vous subissez des mauvaises choses qui sont simplement les conséquences de ce que vous auriez fait, du fait que vous avez fait mal, de quoi plaignez-vous? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est embêtant, n'est-ce pas? Nous, on aimerait bien que si on fait du bien, il n'y a que de bonnes choses qui puissent nous arriver et que les mauvaises choses ne nous arrivent que lorsque nous les méritons. Mais Pierre nous dit, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ce qui veut dire, on peut vivre bien de manière à plaire à Dieu et pourtant avoir à supporter la souffrance. Et il va même jusqu'à dire, et c'est à cela que vous aviez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Dans sa prière tout à l'heure, Pierre a rappelé cet appel du Seigneur, suis-moi. Souvent, on aimerait bien pouvoir être chrétien sans avoir à suivre Jésus-Christ dans le monde. On aimerait bien devancer le Seigneur et avoir tout de suite la gloire qui va venir lorsqu'il reviendra. Mais Pierre dit, pensons à l'exemple de Jésus-Christ. Suivons-le. Donc, dans le sens biblique, vivre la victoire en Christ n'est ni toujours être le premier en tout, et ce n'est pas non plus avoir une vie où toutes nos difficultés ont disparu. D'ailleurs, si on regarde de près ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, verset 4, on devrait s'en rendre compte rien que par son propos. Parce que de quoi parle-t-il? Il parle de la victoire dans l'épreuve. Ceci nous donne, dit-il, la victoire dans l'épreuve. Il ne dit pas la victoire où l'épreuve est disparue, mais étant chrétien, suivant le modèle du Seigneur, nous permet de vivre la victoire dans l'épreuve. Et il parle d'affliction. Il va même jusqu'à dire, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que donc, ça démarre ce processus qui conduit à la victoire et à l'espérance. Alors lorsqu'il parle d'affliction, si on regarde le mot grec que l'apôtre Paul a employé, alors dommage que Georgia ne soit pas parmi nous pour nous donner toute la gamme de sens derrière ce mot, mais en fait ce mot affliction, ce n'est pas juste des petits bobos, ce n'est pas juste des petites choses de rien du tout dont on pourrait se plaindre. Ce mot affliction dans le grec parle de quelque chose qui écrase. C'est une situation qui nous laisse avec l'impression qu'on est écrasé par les circonstances de la vie. C'est le mot qu'on pourrait traduire par compressé. En fait, quelque part, c'est l'idée qu'on trouve dans le rouleau compresseur. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par des circonstances où vous avez l'impression qu'un rouleau compresseur vous passe dessus et de préférence fait plusieurs allers-retours en avant, en arrière pour bien s'assurer que tout est bien écrasé. En fait, ce qui est intéressant et qui nous aide à comprendre ce que Paul a en tête, c'est le même mot qui est employé pour parler du processus pour produire l'huile d'olive. C'est le mot qu'il employait pour lorsqu'il prenait l'olive et l'écrasait jusqu'au point d'en faire couler de l'huile. C'est ça, cette affliction que l'apôtre Paul dit peut être un sujet de gloire pour nous parce que ces afflictions produisent la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Il est donc possible de se glorifier, même dit Paul, de quelque chose qui donne l'impression de nous écraser à cause de la victoire que nous connaissons en Jésus-Christ. Donc, pour cela qu'il dit, nous n'avons pas à se plaindre outre mesure, nous n'avons pas à craindre ces choses. Ces choses peuvent devenir un sujet de gloire parce que, non pas parce qu'on aime être écrasé, mais parce que on sait vers où ça va nous emmener. On sait que l'objectif, ça va être donc la victoire en Jésus-Christ et l'espérance éternelle. Donc, l'apôtre Paul nous parle de cette victoire en Jésus-Christ qui était une victoire dans l'épreuve. Alors, à quoi ressemble cette victoire dans notre vie? À quoi ressemble la victoire en Christ? Dans quel domaine de la vie est-ce qu'on peut le reconnaître? Pour cela, on va revenir justement sur le passage que nous avons lu mercredi soir, donc dans 1 Jean, chapitre 5, les versets 1 à 5. 1 Jean 5, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qu'il a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Encore une fois, cette idée de triompher en Christ. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire donc, comme Paul le constate, que même si parfois les circonstances me donnent l'impression qu'ils vont totalement m'écraser, en Jésus-Christ, je peux triompher du monde dans ces situations. Tout comme lui, il a triomphé. En Jean 16, verset 33, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde et en Jésus-Christ, nous pouvons triompher du monde. » Dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, j'en parle du combat pour triompher du monde quand il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ça rappelle les paroles que nous avons vues ensemble le week-end dernier dans 2 Pierre chapitre 3, lorsque Pierre dit « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » Le monde passe et sa convoitise aussi. Tout ceci est en voie de dissolution. La Bible me dit donc qu'en Jésus-Christ, je peux emporter la victoire sur les voies de ce monde, dans le sens où je ne me laisse pas devenir prisonnier des voies de ce monde. Alors, il y avait apparemment une fois une occasion où le président français, le général de Gaulle, s'est plaint de certaines personnes dans la société en disant qu'il avait marre de ses possédants possédés par les possessions qu'il possède. Des possédants qui sont eux-mêmes possédés par les possessions qu'il possède. Le monde nous dit que l'argent fait tourner le monde, ou que l'argent fait le bonheur. Dieu, au contraire, nous met en garde contre ce que lui appelle le culte de Mammon, où finalement mes décisions sont prises en fonction de l'argent. Il y a aussi l'histoire du jeune homme riche et bien d'autres références encore. Je peux donc en Jésus-Christ être victorieux, triompher des voies du monde en servant Jésus au lieu de servir l'argent. Le monde dit que c'est la loi du plus fort qui gagne et qui est gagnant et qui est important, qu'il faut appliquer, qu'il faut suivre. Si c'est dans la politique, si c'est au niveau militaire, si c'est dans le monde de l'emploi, dans les techniques qui sont appliquées, ou si c'est dans les conflits entre patrons et syndicats, chacun veut se montrer le plus fort. Dieu, par contre, nous dit que la voie de la victoire, c'est de ne pas suivre, de ne pas obéir à la loi du plus fort. Dans Matthieu 20, verset 25, Jésus dit à ses disciples, « Vous savez que les chefs des nations, les chefs des païens, les tyrannisent et que les grands les asservissent. Mais il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Nous vivons dans un monde où l'esclavage et l'esclavagisme est considéré comme une des pires situations possibles. Jésus dit que le premier, celui qui désire être le premier parmi vous, se rend esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et en Matthieu 5, face à la loi du plus fort, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » Il y a donc une victoire possible sur le monde, il est possible de triompher du monde dans le fait où Dieu nous permet, en Jésus-Christ, de triompher des voies de ce monde dans lequel nous vivons. Mais lorsque Jésus parle de l'esprit et du cœur, cela révèle que nous avons également besoin de triompher du monde qui se trouve en nous-mêmes. 1 Jean chapitre 2, verset 16. tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais ce n'est pas juste quelque chose qui est extérieur à moi. C'est où se trouve, où se situe cette convoitise. Si c'est du cœur ou des yeux, où se situe cet orgueil? C'est en nous. C'est dans mon cœur, c'est dans mes pensées, c'est dans ma manière de réfléchir et ma manière de faire. Mais Dieu révèle donc l'importance de gagner ce combat-là, de triompher du monde et de vivre cette victoire en Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Si je ne mène pas ce combat-là, si je ne triomphe pas du monde qui est en moi, la Bible dit, la réalité, c'est que je vis en ennemi de Dieu. C'est ce dont Jésus parlait, dans le sens de se charger tous les jours de sa croix. Ou Paul, lorsqu'il parle d'avoir crucifié la chair, le fait de mettre à mort ses convoitises et cet orgueil qui est en moi. Et puis Romains 5, verset 2, parle d'avoir accès par Jésus-Christ, par la foi, à la grâce de Dieu, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc en Jésus-Christ, nous triomphons du monde, non seulement en pensant aux voies du monde autour de nous qui sont contraires à la loi de Dieu, non seulement dans le sens de triompher des restes du monde qui sont en nous et dans notre caractère, mais on triomphe également du monde dans le sens où nous avons justement en Jésus-Christ une espérance éternelle. C'est triompher de la seule réalité absolue de ce monde, qu'est la mort. 1 Corinthiens 15 nous en parle, mais nous encourage en disant « Si Christ n'était pas ressuscité, vous seriez toujours dans vos péchés, vous n'auriez aucune espérance, vous seriez les plus à plaindre ou les plus misérables de tous les êtres humains. » Et puis il y a ce merveilleux verset où Paul dit « Mais Christ est ressuscité d'entre les morts. » Et puisque Christ est ressuscité d'entre les morts, nous aussi nous avons cette espérance éternelle. Puisque Christ est ressuscité d'entre les morts, la mort va connaître sa fin. Nous, au contraire, nous allons être transformés pour être à l'image de Jésus-Christ ressuscité. Et la mort sera engloutie dans la victoire. C'est ce triomphe du monde, cette victoire dont parlent Jean et l'apôtre Paul. La victoire éternelle de ne pas subir le sort inévitable du monde, mais cette espérance que nous avons de vivre sur une nouvelle terre, qui est le moyen éternel de triompher du monde. Donc, l'apôtre Paul nous dit, lorsque la situation vous donne l'impression de vous écraser, glorifiez-vous dans le fait que même dans ces situations-là, vous pouvez vivre, même vous allez vivre la victoire en Jésus-Christ. Dieu vous donne les clés dans votre vie de triompher du monde, de tout ce qui est contraire aux voies de Dieu, de tout ce qui est les restes du monde en nous, et puis de la fin final de notre monde. Et donc, l'apôtre Paul nous explique comment connaître, comment vivre cette victoire, comment atteindre cette victoire. Il nous montre quelles sont les clés pour vivre cette victoire en Jésus-Christ. On le trouve dans Romains chapitre 5, on les trouve aussi finalement dans 1 Jean chapitre 5. Romains 5, versets 3 et 4 nous révèlent un processus finalement. Nous nous glorifions même des afflictions, donc ces situations qui nous écrasent comme un rouleau compresseur qui nous passe dessus, sachant que cette affliction produit la persévérance, que la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et que cette victoire produit l'espérance. Paul dit, voilà pourquoi nous pouvons nous glorifier de nos afflictions. Ce n'est pas qu'on aime être sous un rouleau compresseur, mais on sait que c'est le point de départ d'un processus qui nous emmène jusqu'à la victoire et à cette espérance éternelle. Ça commence par cette affliction, par cet écrasement, par les situations de la vie. Mais Paul dit, dans la vie chrétienne, cette affliction, ce processus de nous écraser, cette chose qui pourrait nous laisser entièrement à plat, écrasés, broyés, comme les restes qu'on trouverait au fond de la machine pour produire de l'huile, et dit chez nous, en tant que chrétiens, en Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, cet écrasement produit en nous non pas le désespoir, non pas la mort et la faim, mais la persévérance. Lorsqu'on passe par cela, il dit, la réaction n'est pas de sombrer dans le désespoir, c'est simplement de persévérer. Nous nous glorifions dans ces afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et cette persévérance va produire la victoire dans l'épreuve. Et 1 Jean 5, versets 4 et 5, nous explique ce que Paul sous-entend par ce terme « persévérance ». Verset 4, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Lorsque donc les situations, les circonstances nous écrasent, dit Paul, par notre foi, nous proclamons que Jésus est le Fils de Dieu par la décision et par les actes conséquents de persévérer dans la foi. Lorsque on a cette impression d'être sous le rouleau compresseur, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on continue. On continue à faire ce qui est juste. On continue à croire en Dieu. Lorsque ce rouleau est bien par-dessus nous, on ne dit pas « Ah ben voilà, ce rouleau compresseur, c'est la preuve que Dieu n'existe pas, ou que Dieu ne m'aime pas, ou que Dieu ne s'intéresse pas à moi. » Paul dit « Nous prenons la décision dans ces moments-là de persévérer dans notre foi, de continuer à proclamer la vérité, de proclamer ce que nous croyons, de le proclamer pas simplement en disant des mots comme si c'était une formule magique, mais de le proclamer par un style de vie, par des actes qui proclament que Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu. Et même si je ne comprends pas pourquoi j'ai un rouleau compresseur garé sur moi, je sais que lui, il est mon maître. Je sais que lui, il est venu mourir pour moi. Je sais que lui, il m'a racheté, qu'il m'aime et qu'il m'aimera éternellement et que je peux lui faire confiance. Et je continue à vivre pour lui. Je continue à mettre en pratique sa parole. Je continue à mettre en pratique ses principes qu'il me dit vont être la réalisation de ma victoire de ma triomphe sur le monde. Nous restons fermes dans notre foi. Nous résistons à ce processus d'écrasement par une fermeté de foi pour que, si tout le reste est écrasé de nous, si on est comme cette olive dont on a puisé toute l'huile, ben, il reste tout de même cette fermeté en réaction de notre foi. Et donc je continue à suivre les voies de Dieu et à les mettre en pratique. Alors la Bible ne nous dit pas que ce sera forcément facile, que ben, simplement parce que on a dit « je mets ma foi en Jésus-Christ », hop, tout disparaît. Mais Philippiens 4, verset 13 me dit « lorsque je me trouve dans cette situation écrasante, je peux avoir cette confiance que je puis tout par celui qui me fortifie. » Et en fait, quand on regarde dans le grec, je ne sais pas pourquoi dans la version seconde, il n'a pas traduit le pas plus clairement, mais celui qui me fortifie, c'est Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie. J'ai l'impression d'être écrasé par cette situation, mais Dieu m'a promis la victoire qui va sortir de ma persévérance. Cette victoire qui va triompher des voies du monde, qui va triompher des voies du monde en moi-même, qui va triompher de la fin finale de ce monde, je vais pouvoir persévérer, tenir ferme, parce que je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. C'est intéressant à voir que dans Romains 5, l'apôtre Paul ne considère pas cette victoire comme juste une éventualité. Pour lui, ça fait partie normale, intégrante de la vie chrétienne. Il ne dit pas « nous pourrions nous glorifier des afflictions-ci » ou « nous pourrons nous glorifier des afflictions-ci ». Il dit « bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction dans la vie chrétienne produit la persévérance. Que la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. » Ce n'est même pas que l'épreuve est disparue. Mais il dit « cette persévérance dans les voies de Dieu, c'est la victoire dans l'épreuve. » Et cette victoire produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il peut dire cela parce que, comme dit Jean dans 1 Jean 5:4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si nous sommes nés de Dieu, nous avons cette garantie en Jésus-Christ de triompher du monde en persévérant. C'est le seul moyen que la Bible nous donne pour connaître cette victoire, de persévérer dans l'affliction, sachant que cette persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Si de temps à autre, nous avons et nous pouvons avoir l'impression que les situations de la vie nous écrasent, telle une olive dont on veut à tout prix sortir la moindre goutte d'huile. Sachons, soyons convaincus que donc Dieu nous a dit qu'en Jésus-Christ, nous serons persévérants et nous serons victorieux dans cette situation, en persévérant dans les voies de Dieu, et que donc nous connaîtrons la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produira en nous l'espérance qui ne trompera point, qui ne décevra point, parce que Dieu nous le dit dans sa parole et nous pouvons nous bâtir sur ses promesses. Donc soyons encouragés par la parole de Dieu de persévérer pour voir la victoire de Dieu sur le monde, de triompher du monde dans notre vie, dans les circonstances de notre vie, sachant que finalement le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.